Chapitre 11. La fête des moissons. Comme vous nous en avez prié, je vous envoie un messager afin de vous informer qu'on a repéré la reine dragon bleu Tintaglia et son compagnon noir Glacefeu. Ils paraissent en bonne santé et ne pas manquer d'appétit. Nous nous sommes efforcés de leur faire entendre que nous nous inquiétons de leur bien-être et de celui des dragonnets laissés à vos bons soins. Mais il nous a été impossible d'avoir la certitude qu'ils percevaient toute la gravité et l'urgence de votre désir de renseignement sur eux. Comme vous le comprendrez peut-être, ils semblaient préoccupés uniquement l'un de l'autre et peu disposés à engager ou à faciliter une conversation avec des humains. Missive de la reine Kétrikène au conseil des marchands de Terrilville. Le soir, je me trouvais à mon ancien poste d'observation habituel, derrière le mur de la grande salle. Pour une fois, j'espionnais afin de satisfaire ma curiosité personnelle et non à la demande d'Imbre. J'avais près de moi un panier contenant une bouteille de vin, du pain, des pommes, du fromage, des saucisses et un furet, et j'étais assis sur un coussin. Le dos courbé, l'œil collé à l'interstice entre les pierres, j'observais la foule tournoyante où se rencontraient et se mêlaient les six duchés et les îles d'outre-mer. La soirée se déroulait dans une atmosphère informelle. Les solennités n'interviendraient que le lendemain. Pour le présent, les tables, qui croulaient sous les victuailles, avaient été poussées contre les murs pour laisser place aux danseurs. Ménestrels, jongleurs et marionnettistes mineurs ou débutants auraient l'occasion d'exhiber leurs talents. Il régnait une ambiance de joyeux désordre et de réjouissance à la perspective des moissons, et gens du peuple et nobles se côtoyaient dans toutes les salles et cours du château. J'eusse sans doute pu me mêler à eux sans danger, mais je n'en avais pas le courage. Aussi dissimulé, je scrutais la salle et prenais plaisir au plaisir des autres. J'avais gagné ma cachette assez tôt, et je pus ainsi entendre Heure chanter. Il donna sa prestation devant les enfants, amené à la fête en début de soirée afin qu'on pût les coucher à une heure pas trop tardive, et enchaîna deux chansons aux histoires farfelues, l'une sur un homme qui chassait la lune, l'autre à propos d'une femme qui plantait un gobelet pour récolter du vin, une fourchette pour faire pousser de la viande, et ainsi de suite. Il riait toujours à perdre haleine quand Astérie lui chantait jadis, et son public réagissait de même aujourd'hui. Heure paraissait rayonner de bonheur, et son maître avait l'air tout à fait satisfait de lui. Je poussai un petit soupir. Mon garçon parmi les ménestrels. Jamais je n'aurais imaginé cela. J'aperçus aussi Leste, les cheveux coupés ras en signe de deuil, qui déambulait en compagnie de Tram. Il semblait avoir vieilli depuis la dernière fois que je l'avais vu. Non par les traits, mais dans son maintien. Il ne quittait pas le maître de Vif, et je me réjouissais qu'il l'eût choisi comme mentor. Je continuai à parcourir la foule des yeux, et parmi les danseurs, je remarquai le seigneur civil. Il tenait une jeune fille entre les bras, et j'éprouvais un choc en reconnaissant Horty. Pétrifié, je m'efforçais de digérer cette situation quand la musique s'acheva et que Devoir ramena Dame Sidèle à son cavalier, avant de se lancer dans la nouvelle danse avec Horty. Le prince, me sembla-t-il, faisait un peu triste mine malgré la contenance amène que lui imposait la fête. Sans doute, n'était-ce pas avec la partenaire de son ami ni avec sa cousine qu'il aurait vraiment souhaité virevolter dans la salle. Quant à Horty, elle dansait bien, mais avec quelque raideur. Craignait-elle de ne pas se rappeler les pas, ou bien le rang de son cavalier l'intimidait-il? Elle portait une robe d'une grande simplicité, semblable en cela au costume du prince, et j'y reconnus la main de Kétrikène. Songeant à la reine, je la cherchais des yeux et la trouvais sur un fauteuil surélevé, d'où elle dominait les festivités. Elle paraissait fatiguée, mais satisfaite. Je ne vis pas Imbre à ses côtés, ce qui me surprit jusqu'au moment où je le remarquais en train de danser, lui aussi, avec une rousse flamboyante qui n'avait sûrement pas plus du tiers de son âge. L'un après l'autre, je repérais tous ceux avec qui j'avais tissé les parties les plus importantes de ma vie. Astérie, désormais dame pêcheur, trônait sur un fauteuil garni de coussins. Son époux se tenait près d'elle, plein de sollicitude, et se chargeait lui-même d'aller lui quérir à boire et à manger, comme s'il eût été imprudent de confier une tâche aussi essentielle à de simples domestiques. Dame Patience fit son entrée, flanquée de brodettes et parée de plus de dentelles que toutes les femmes présentes réunies. Elles découvrirent un bout de banc libre près de l'estrade d'un marionnettiste, y prirent place et se mirent à observer la salle en se donnant des coups de coude, en désignant du doigt les uns et les autres et en échangeant des propos à mi-voix comme deux gamines. J'aperçus Dame Romarin en grande conversation avec deux Kaempra outriliens. Avec son charmant sourire et son ample poitrine, elle devait faire bonne récolte d'informations sur lesquelles Sire Imbre cogiterait tout à loisir le lendemain matin. Archon sans grépée était là, vêtu d'une cape bordée de renard roux, et entretenait la duchesse de Béarn d'un sujet apparemment sérieux. Elle l'écoutait poliment, mais je doutais qu'aucun traité commercial pût jamais lui faire voir les Outriliens sous un jour complètement favorable. Trois représentants du Headgird, que je me rappelais avoir vus à l'assemblée des Kaempra, se tenaient ensemble près des tables, tandis que plusieurs autres, debout, regardaient un spectacle de marionnettes d'un air perplexe. Mes yeux s'arrêtèrent de nouveau sur Orti, qui traversait seul la foule en liesse. Un jeune homme râblé s'approcha d'elle. À ses cheveux coupés ras, je supposais qu'il s'agissait de Chevalerie, le fils aîné de Burik. Ils se lancèrent dans une conversation au milieu du brouhaha et des éclats de rire. Peu après, une femme vêtue d'une robe bleue nuit sans le moindre ornement les rejoignit, tenant par la main un petit garçon qui s'efforçait de lui échapper. J'eus un tressaillement attristé devant le crâne rasé de Molly, et j'eus aussitôt la conviction que la disparition de ses tresses n'aurait pas plu à Burik. Sa tête nue lui donnait un air curieusement juvénile. Elle agrippait fermement la main d'âtre et désignait du doigt un autre petit garçon, demandant manifestement à Chevalerie de l'aider à réunir ses enfants pour la nuit. Mais Orti prit brusquement son dernier frère dans ses bras et l'emporta en tournoyant sur la piste de danse, où ses glapissements de joie à l'idée d'avoir échappé à sa mère firent sourire plus d'un couple. D'un geste apaisant, Chevalerie posa la main sur l'épaule de sa mère tout en acquiesçant à ses propos. À cet instant, une troupe d'acrobates vint boucher ma vue. Quand ils eurent terminé leur tour, je ne pus retrouver Molly nulle part. Dans l'obscurité, je me laissai aller contre le mur derrière moi. Près de moi, Girofle demanda « Saucisse ?» Je tâtonnais dans le panier, mais n'y découvris que des bouts de viande déchiquetés. Il les avait mis en pièces dans une pantomime de curé. Je sentis sous mes doigts un morceau plus gros que les autres. Je le lui offris, et il me l'arracha avec enthousiasme. Je passai toute la soirée ainsi. Dans la salle, je vis les personnes les plus proches de mon cœur danser et virevolter au son d'une musique qui me parvenait à peine à travers l'épaisseur des murs. À un moment, je m'écartai de mon trou d'observation pour soulager mon dos douloureux, et je remarquai un faible ray lumineux qui tombait sur moi. Je pris la petite tache brillante au creux de ma paume et l'observai quelque temps sans bouger, en y voyant une métaphore de mon existence. Enfin, cessant de pleurer sur mon sort, je me penchai à nouveau vers l'interstice. L'ours s'éloignait d'une table, un empilement de tartelettes entre les mains. Sa musique était forte et joyeuse, et il se déplaçait à son rythme, complètement décalé de celui que le reste de l'assistance entendait. Mais au moins, il participait à la fête, lui. Au moins, il se frottait aux autres. L'envie me saisit tout à coup de rejeter toute prudence et de le rejoindre, mais elle s'éteignit aussitôt que née. Non. Les enfants de Molly s'étaient arrêtés devant un jongleur à leur goût et formaient un demi-cercle autour de lui. Orti tenait âtre et calme par la main. Chevalerie avait pris juste dans ses bras. Agile et leste regardaient le spectacle côte à côte. Je remarquai Tram derrière eux, à distance, mais présent. Je balayai le reste de la foule de l'œil, sans trouver personne d'autre qui retint mon attention. Je laissai mon panier et mon coussin au furet et m'éloignai dans les trois passages. Je savais qu'un autre trou d'observation donnait sur les appartements des Violettes. Je m'abstins de m'en approcher. Je débouchai de mon dédale secret dans un placard où je pris quelques instants pour m'épouster et me débarrasser des toiles d'araignée, après quoi je m'engageai à pas presser et les yeux baissés dans la cohue des couloirs de Castelserre. Nul ne fit attention à moi. Nul ne m'interpella, ni ne m'arrêta pour me demander de mes nouvelles. J'aurais pu aussi bien être invisible. Dans les escaliers, la foule devint moins compacte, et quand j'arrivai au logement de la noblesse, je ne croisais plus âme qui vive. Tout le monde participait aux réjouissances au rez-de-chaussée. Tout le monde sauf moi, et peut-être Molly. Trois fois, je passais devant la porte des appartements des Violettes sans m'arrêter. La quatrième, je m'imposais de frapper, ce que je fis plus fort que je ne le voulais. Mon cœur cognait dans ma poitrine, et je tremblais comme une feuille. Seul le silence me répondit. Puis, comme je songeais que j'avais rassemblé mon courage pour rien, que nul n'ouvrirait, j'entendis Molly demander à mi-voix.
« Qui est là ?»«
Moi, » fis-je bêtement. Et alors que je cherchais par quel nom m'identifier, elle m'annonça sans ambiguïté qu'elle m'avait reconnu.
« Va-t'en,
s'il te plaît. »
« Va-t'en,
je t'en prie. »
« Non. »
« J'ai promis à Burick de veiller sur toi et les enfants. » Je le lui ai juré. La porte s'entrebâilla, et un de ses yeux apparut par l'ouverture.
« Quelle ironie. C'est précisément ce qu'il m'a déclaré quand il a commencé à subvenir à mes besoins, qu'il t'avait promis, avant ta mort, de veiller sur moi. »
Je ne sus que dire, et la porte se referma peu à peu. Je glissai mon pied dans l'interstice. « Je t'en prie, laisse-moi entrer rien qu'un instant.
Enlève ton pied ou je te l'écrase. »
Elle ne plaisantait pas. Je décidai de courir le risque.
« Je t'en supplie, Molly. Après toutes ces années, tu ne veux pas me laisser une chance de m'expliquer, une seule. C'était il y a 16 ans qu'il fallait t'expliquer. À l'époque, ça aurait pu tout changer. Je t'en prie, fais-moi entrer. »
Elle ouvrit brusquement, les yeux flamboyants.
« Je ne veux entendre qu'une chose de toi. Raconte-moi les dernières heures de mon époux. »«
D'accord, » murmurai-je. « Je te le dois bien, sans doute. »
« En effet. »
Elle recula, en me laissant tout juste la place de me faufiler à l'intérieur.
« Tu me le dois bien, et beaucoup plus encore. »
Elle portait une chemise de nuit et une robe de chambre. Ses formes, plus pleines que dans mes souvenirs, étaient celles d'une femme et non plus d'une jeune fille. Elle ne manquait pas de séduction. Je reconnus dans l'air son odeur, celle de son parfum, mais aussi celle de son corps, de la cire d'abeille et des bougies. Sa robe reposait, pliée avec soin, sur le coffre au pied de son lit. Un second lit, bas et à roulettes à côté du sien, annonçait que ses garçons dormiraient dans la même pièce qu'elle. Elle avait déballé sa brosse et son peigne et les avait posés sur une table, par habitude plus que par nécessité. Sans réfléchir, je proférais une ânerie en préambule. « Il n'aurait pas voulu que tu te coupes les cheveux. » Elle porta la main à sa tête, l'air gêné.
« Et que peux-tu en savoir ?»
rétorqua-t-elle, outrée. « La première fois qu'il t'a vu, bien avant de t'enlever à moi, il a eu cette remarque sur ta chevelure. Une touche de roux dans la robe. » « Ça ne m'étonne pas de lui, » dit-elle. Puis elle enchaîna.
« Il ne m'a pas enlevé à toi. Nous te pensions mort. Tu nous as fait croire que tu étais mort, et j'ai sombré dans le désespoir. Il ne me restait rien, rien qu'une enfant entièrement dépendante de moi. » Si quelqu'un a enlevé l'autre, c'est moi. Je l'ai choisi parce que je l'aimais, parce qu'il me traitait bien et qu'il traitait bien Horty.
Je sais.
Tant mieux. Assieds-toi là et raconte-moi comment il est mort.
Je m'installai sur une chaise. Elle se jucha sur le coffre à vêtements et j'évoquai pour elle les jours qui avaient précédé la disparition de Burick. C'était la dernière conversation que j'eusse imaginé avoir avec elle en ces circonstances, et je la trouvais des plus pénibles. Pourtant, au fur et à mesure, j'éprouvais un effrayant sentiment de soulagement. J'avais besoin de lui relater ses souvenirs autant qu'elle avait besoin de les entendre. Elle m'écoutait d'un air avide, comme si chacun de mes mots contenait un instant de la vie de son époux qu'elle devait se réapproprier. J'hésitais à lui parler du vif de Burick, mais ne vis pas comment l'omettre de mon histoire. Toutefois, elle devait avoir appris qu'il possédait cette magie, car elle ne manifesta ni surprise ni répugnance. Je lui expliquais l'enchaînement des faits mieux sans doute que l'Est n'en aurait été capable, car je pus lui assurer qu'à la fin j'avais constaté l'évidence de l'amour de Burick pour son fils, et l'absence de tout fossé entre eux à l'instant de sa mort. Je n'aurais pas pu m'expliquer ainsi à Horty. Molly percevait toute l'importance que Burick attachait au fait de me demander de veiller sur elle et ses jeunes enfants. Je lui répétais ce qu'il m'avait dit, qu'il était celui qu'il lui fallait, et j'ajoutais que je partageais cet avis. Elle redressa le dos et déclara d'un ton mordant. « Vous vous êtes donc entendu sur ce point? Bravo. Mais l'un d'entre vous a-t-il seulement songé à me demander mon opinion? L'un d'entre vous a-t-il seulement songé que la décision m'appartenait peut-être ?» Et ces mots ouvrirent les portes qui me permirent de remonter les années, de lui révéler mes activités d'alors, de lui apprendre où et comment j'avais découvert qu'elle s'était donnée à Burick. Tandis que je parlais, elle se détourna en se mordant l'ongle du pouce. Quand je me tus enfin, elle dit « Je te croyais mort. Si j'avais connu la vérité, s'il avait connu la vérité, je sais. Mais il n'existait aucun moyen de vous prévenir sans danger. Et ensuite, une fois que vous... Il était trop tard. » Elle se pencha en avant, le menton dans les paumes, les doigts sur la bouche. Elle avait les yeux clos, mais des larmes perlaient entre ses cils. « Quelle pagaille tu as mise! Quel gâchis nous avons fait de nos vies !» J'entrevis sans réponse à ses reproches. J'aurais pu protester, que je ne portais pas la responsabilité de ce gâchis, que nous en étions tous victimes, mais je n'en eus plus la force tout à coup, et je baissai les bras. Et maintenant, plus rien ne peut se passer entre nous. Il est trop tard. Oh, Fitz ! Malgré le ton de réprimande, l'entendre prononcer mon nom me fut comme une caresse. Avec toi, il était toujours trop tard ou trop tôt, un jour, demain, ou après que tu aurais rempli tel ou tel dernier devoir pour ton roi. Pour une femme, il faut quelquefois que ce soit maintenant. Moi, en tout cas, j'en avais besoin. Je regrette que ça se soit produit si rarement entre nous. Nous nous tûmes un moment, plongés l'un et l'autre dans une nostalgie accablée. Enfin, elle reprit à mi-voix. Chevalerie ne va pas tarder à m'amener les petits. Je leur avais promis qu'ils pourraient demeurer à la fête jusqu'à la fin du dernier spectacle de marionnettes. Il ne faut pas qu'ils te trouvent ici. Ils ne comprendraient pas et je ne saurais pas leur expliquer. Je la quittai donc et m'inclinai devant elle à la porte. Je ne l'avais pas touchée. Je ne lui avais même pas effleuré la main. J'éprouvais un sentiment de désespoir encore plus profond qu'avant de frapper à sa porte. Il restait alors une possibilité, si ténue fut-elle. À présent, je devais faire face à la réalité. Il était trop tard. Je redescendis les escaliers et me replongeai dans la foule, et le bruit, soudain le vacarme s'amplifia. Des voix excitées montèrent, des questions fusèrent, des rumeurs se répondirent.
« Un navire ! Un navire en provenance des îles d'outre-mer ! Il est bien tard pour entrer au port ! Une bannière frappée du narval ? Le coursier vient d'arriver ! J'ai vu son bâton de messager ! »
Je me trouvais alors emporté vers la grande salle par la cohue. Je tentais de me frayer un passage jusqu'au mur du couloir, mais ne réussis qu'à recevoir des coups de coude dans les côtes, à me faire injurier et marcher sur les pieds. J'abandonnais et me laissais entraîner par le flot des bateaux. Un coursier s'était bel et bien présenté devant la reine. Il fallut quelque temps pour que l'écho s'en impose à tous. Les premiers, les musiciens firent taire leurs instruments, sur quoi les marionnettistes interrompirent leur représentation et les jongleurs cessèrent de faire tournoyer leur massue. La foule curieuse bourdonnait comme une ruche et s'enflait constamment de nouveaux venus. Le messager se tenait devant la reine, haletant encore, brandissant le bâton qui le désignait comme envoyé royal qu'il ne fallait retarder sous aucun prétexte. En un clin d'œil, Imbre vint se placer aux côtés de Kétriken, puis Devoir monta sur l'estrade pour la flanquer à son tour. Elle tendit à bout de bras le manuscrit déroulé afin qu'ils puissent le lire en même temps qu'elle. Puis, quand elle le leva bien haut, les murmures interrogateurs des spectateurs s'éteignirent.
« Bonne nouvelle ! Un navire à l'emblème du narval vient d'accoster dans le port, » lança-t-elle. « Apparemment, le Kaimprapéotre du clan du narval des îles d'outre-mer participera peut-être à notre fête des moissons demain. »
À cette annonce étonnante, Harkon sans grépé poussa une exclamation d'enthousiasme qui couvrit sans mal les marmottements polis des nobles, et un outrélien asséna une grande claque dans le dos du duc de Labourg. D'un hochement de tête, le prince exprima son plaisir à l'assemblée. Puis, il fit un signe aux musiciens qui se lancèrent dans un air festif et enlevé. L'espace manquait pour danser, mais les gens se mirent à sautiller et à se trémousser sur place, l'air ravi. Enfin, la presse se clairsema légèrement quand certains sortirent en quête d'air frais, d'un peu de solitude, ou pour aller répandre ce qu'ils avaient appris. Le spectacle de marionnettes s'acheva, et je vis chevalerie et ortie rassembler leurs cadets, puis les emmener. D'autres en faisaient autant avec leurs enfants. À l'instant où j'estimais la foule assez dispersée, pour me permettre de m'éclipser sans devoir jouer des coudes pour parvenir à la porte, des voix excitées montèrent à nouveau au dehors, et presque aussitôt, les gens commencèrent à refluer dans la salle. Je sentis qu'on me tirait par la manche. Je me retournai et vis Brodette debout près de moi.
« Viens t'asseoir avec nous, mon garçon, nous te cacherons. »
Et je me retrouvai peu après, installé sur un banc entre Patience et Brodette, aussi discret qu'un renard au milieu d'un poulailler. Je courbai le dos, dissimulai mon visage derrière une chope de cidre et attendis de découvrir l'origine de ce nouveau tumulte. Je crus d'abord qu'il s'agissait de l'arrivée de Péotre lorsque je le vis apparaître dans l'encadrement de la porte et s'y arrêter. Toutefois, le brouhaha qui nous parvenait de l'extérieur paraissait excessif, même pour sa présence. En outre, le Khempra affichait une expression résolue qui laissait supposer un événement d'importance. Il leva les bras et cria d'une voix forte.
« Dégagez un chemin, s'il vous plaît. Ouvrez un passage. »
C'était plus facile à dire qu'à faire dans la presse qui l'entourait. Néanmoins, les gens tâchèrent de s'écarter, et il s'avança dans l'espace libre d'un pas lent et mesuré. Derrière lui surgit alors une vision telle que peu en ont jamais vue. Eliania portait un manteau bleu, dont la capuche bordée de fourrure blanche mettait en valeur ses yeux et ses cheveux noirs et brillants. Le vêtement qui tombait jusqu'au sol et s'achevait en une longue traîne avait une couleur uniforme bleue de serre et s'ornait de serres et de narvals bondissant côte à côte. De minuscules pierres scintillantes figuraient leurs yeux, si bien qu'on l'eût dit habillée du firmament d'un soir d'été lorsqu'elle pénétra dans la salle. Le prince de Voir n'avait pas quitté l'estrade où trônait sa mère. Il regardait la Narcheska et nul ne pouvait douter que le spectacle l'emplissait de ravissement. Tout à coup, sans un mot, à Imbre ni à la reine, sans même prendre la peine de descendre les deux marches, il sauta sur le pavage. À sa vue, Eliania rejeta sa capuche en arrière et se précipita à sa rencontre. Au centre de la grande salle, leurs mains se joignirent et l'on entendit clairement la voix limpide et joyeuse de la jeune fille.
« Je n'ai pas pu attendre. Je n'ai pas pu attendre l'hiver ni le printemps. Je viens t'épouser et je ferai de mon mieux pour vivre selon vos coutumes, aussi étranges qu'elles soient. »
Devoir la contemplait. Je vis son visage s'illuminer de bonheur. Puis, je perçus qu'il hésitait, qu'il cherchait ses mots, les propos corrects à tenir devant tous ses sujets assemblés. Eliania leva les yeux vers lui, et la lumière de ses yeux commença de pâlir tandis que le prince s'efforçait de formuler une réponse soigneusement pesée. J'artisai violemment. « Dites-lui que vous ne pouvez pas attendre non plus. » Dites-lui que vous l'aimez et que vous voulez l'épouser sans plus tarder. On ne remet pas au lendemain un amour qui vient de si loin et à un prix aussi élevé. Quand on aime une femme, on l'aime maintenant. » Les traits d'Imbre se figèrent en un sourire horrifié. La reine se leva et je devinai qu'elle retenait son souffle. Péotre ne bougea pas, le visage pétrifié. Sans aucun doute, il formait le vœu fervent que le prince ne blesse ni n'humilie la jeune fille. D'une voix forte et claire, Devoir déclara.
« Alors, nous nous marierons dans la semaine, non seulement devant mes ducs, mais devant tous ceux qui sont assemblés ici. Nous nous marierons, puis nous rentrerons la moisson comme mari et femme. Cela te plairait-il ?»«
Elida, la mer et la terre !»
s'exclama sans grépée.
« Le cerf et le narval au tournant de l'année. Bonne fortune pour nous tous !»
« Qu'il en soit ainsi !»
s'écria Péotre à son tour, et une expression stupéfaite envahit ses traits.
« Oui, cela me plairait. »
Je lus les mots sur les lèvres de la Narcheska, mais ne les entendis pas, submergé par le bruit assourdissant de 100 bouches se mettant brusquement à parler toutes ensemble autour de moi. Ambre ferma les paupières un instant, puis plaqua un sourire sur ses lèvres et posa un fin regard d'affection sur son fougueux prince. Mais le bonheur qui brillait dans les yeux d'Eliania anéantissait l'aigreur qui se dissimulait au fond des siens. Si elle avait eu besoin d'une confirmation de sa décision, devoir la lui avait fournie. Qu'en avait-il coûté à son clan et à elle-même de venir chez nous? On voyait sur son manteau des narvals et des cerfs qu'elle n'avait certainement pas brodé toute seule. J'en déduisais qu'elle avait reçu un certain soutien maternel.
« Il se marie cette semaine ?»
demanda Patience, et j'acquiesçais de la tête.
« Eh bien, cette fête des moissons sera mémorable. Il faudra envoyer des messagers partout dans le pays. Nul ne voudra manquer pareil événement. Il n'y a pas eu d'épousailles dignes de ce nom à Castelserre depuis notre mariage à Chevalerie et moi. » « À mon avis, il faudra encore attendre, » intervint Brodette. « Tout est prêt pour une fête des moissons, pas pour un mariage. Mijotte va être dans tous ses états. »
Elle avait raison, à l'évidence. Je parvins à m'esquiver de la joyeuse pagaille que j'avais créée et même à trouver quelques heures pour dormir, terré dans la salle de travail. Peu d'autres eurent cette chance, je le crains, entre autres les domestiques qui durent œuvrer toute la nuit. Par chance, la fête des moissons était déjà commencée et le château paré de guirlandes automnales. Par bonheur aussi, tous les ducs et duchesses se trouvaient réunis au château pour l'occasion, car c'eût été un énorme scandale si l'un des principaux nobles du royaume n'avait pu assister à la célébration à cause de la hâte du prince à se marier. Je regrettais presque ma cachette exiguë et mon trou d'observation le lendemain. Je restais debout au dernier rang de la garde princière pendant l'interminable cérémonie des moissons. Longue Mèche avait regarni notre contingent écorné. Néanmoins, je ressentis douloureusement l'absence de ceux qui nous avaient accompagnés à la chasse au dragon. Et je pense que Crible, à côté de moi, partagea mon émotion. Malgré tout, nous éprouvâmes une grande satisfaction à voir notre prince et sa fiancée ensemble. Ils étaient costumés en roi et reine des moissons, selon une vieille coutume tombée depuis longtemps en désuétude par manque d'un couple royal à Castelserre. Les couturières avaient dû travailler toute la nuit. Eliania portait son manteau à motif de cerf et de narval, et par un miracle de célérité, on avait créé pour le prince un pourpoint exactement assorti. On avait remplacé le simple bandeau qui coiffait ordinairement devoir par un cercle beaucoup plus ouvragé, digne de son rang dans la fête, et j'y reconnus l'intervention subtile d'Imbre, qui lui permettait de présenter son prince comme un roi couronné devant ses ducs. La tribu n'avait qu'un usage cérémoniel, mais il ferait assurément impression. Eliania aussi portait une coiffe, mais là où celle de devoir se parait d'andouillée argentée, la sienne arborait une défense de narval en émail bleu à fil d'argent. Quand ils dansèrent ensemble, seuls au milieu de la piste sablée, ils évoquèrent un couple de légende redevenu réalité.
« On dirait Edda et elle eux-mêmes, » murmura Crible.
Et j'acquiesçais de la tête. Aristocrates et gens du peuple ont en commun une grande sensibilité à la pompe et à l'apparat. Au cours des jours suivants, le château et la ville virent leur population s'accroître dans des proportions qu'on n'avait plus connues depuis plusieurs décennies. La cérémonie d'hommage au clan de Vive du Prince attira une nombreuse assistance, bien plus nombreuse qu'en temps ordinaire. Niel se chargea de narrer l'aventure. Et il s'en acquitta avec une exactitude de détail à laquelle je ne m'attendais plus de la part d'un ménestrel. Vifier lui-même, peut-être ne voulait-il pas qu'on le soupçonne d'enjoliver la vérité à l'excès. Aussi raconta-t-il notre expédition avec une émouvante simplicité, en atténuant le rôle qui avait joué la magie de Burik et celle de son clan, et en rehaussant au contraire leur volonté de tout sacrifier pour leur prince. Niel, Lest, Trame et Civil se virent solennellement reconnus comme formant le clan de Vive du Prince. Cela suscita quelques murmures mécontents chez les doyens de la noblesse qui n'avaient pas oublié que le terme s'appliquait autrefois au cercle d'artiseurs aux ordres du roi. Imbre les assura qu'un clan d'art verrait aussi le jour, dès qu'on aurait trouvé, éprouvé et sélectionné des candidats convenables. La reine donna Flétribois à Molly, de préférence à Horty, afin de laisser penser qu'on remettait la propriété à la famille de Burick en récompense de ses services. Molly l'accepta gravement, et je songeais avec soulagement que les revenus subviendraient aisément à ses besoins et à ceux de ses enfants. Horty fut présentée comme la nouvelle dame de compagnie de la reine, et Lest devint officiellement l'apprenti du maître de vif Tram. Ce dernier évoqua brièvement, mais avec force, la puissance de la magie de Burick, et regrettant qu'il eût dû la cacher au lieu d'y instruire son fils, il exprima l'espoir que plus jamais un tel talent ne serait ainsi gaspillé. Enfin, il résolut l'énigme qu'il m'avait soumise au début de notre voyage. Il déclara que, peu avant son décès, Burick avait assez repris connaissance pour dire adieu à son fils et partir avec sur les lèvres la prière du guerrier. « Oui, » avait-il murmuré dans son dernier soupir. Or, chacun savait qu'il s'agissait là de la prière suprême qu'on put adresser à la vie, l'acceptation. Je réfléchis à cela le soir suivant dans ma salle de travail. J'avais les doigts luisants d'huile à lampe. Elle avait imbibé les manuscrits d'art et rendu flous et baveux les caractères anciens que je m'efforçais de décrypter, les yeux fatigués, tâches épuisantes et décourageantes. Je repoussais les parchemins, m'essuyais les mains avec un chiffon et me versais une nouvelle rasade d'eau-de-vie. Je n'étais pas sûr de partager la conviction de Tram. Néanmoins, il me semblait reconnaître Burick dans ce « oui » à la vie. De fait, il n'y avait guère de gloire ni de satisfaction à espérer en lui disant non. Je lui avais opposé cette réponse assez souvent pour en être pleinement persuadé. J'avais cherché en vain d'autres occasions de parler à Molly en privé. Elle ne quittait apparemment jamais ses enfants. Assis solitaire près de mon feu, je compris peu à peu qu'il faisait partie d'elle et que je n'aurais guère de chance de la trouver seule, loin d'eux. La possibilité de rencontre que je m'étais refusée si longtemps pouvait se réaliser à tout instant, mais elle s'éloignait rapidement de moi. Le lendemain, veille du mariage, je me rendis aux étuves tôt le matin. J'apportai à ma toilette et à mon rasage un soin que je ne leur avais pas prêté depuis des années. Revenu à la salle de la tour, je nouai mes cheveux en queue de guerrier, puis sortis la garde-robe que le fou m'avait infligée. Lentement, j'enfilai une chemise blanche, puis un pourpoint bleu, et finis par des choses bleues de serre. J'avais désormais l'aspect d'un parfait servien, mais plus du tout celle d'un domestique, ni d'un garde. Je me regardais dans le miroir, et un sourire lugubre naquit sur mes lèvres. Patience eût été ravie. Je ressemblais dangereusement au fils de mon père. J'hésitais, puis pris mon courage à deux mains. Et tirai le renard en argent épinglé à l'intérieur de mon pourpoint pour le fixer sur le devant. Le petit animal me fit un clin d'œil, et je souris en retour. Je quittai le labyrinthe secret et m'engageai dans les couloirs de Castelcerf. À plusieurs reprises, je sentis des regards me suivre, et, une fois, un homme s'arrêta net devant moi pour me dévisager, les yeux plissés, en fronçant les sourcils comme s'il essayait de se rappeler un souvenir. Je l'évitais et continuai mon chemin. Le château grouillait de serviteurs pressés et d'aristocrates en grande conversation. Je parvins devant la porte des appartements de Violette et frappai fermement. Ce fut Horty qui vint m'ouvrir. Je restai un instant désemparé. Je m'attendais à me trouver devant son puinet chevalerie. Elle étudia fixement mes traits, perplexe, puis sursauta en me reconnaissant soudain, mais elle garda le silence. Et je demandai. Puis j'entrai. J'aimerais parler à ta mère et à tes frères.
Ça ne me paraît pas avisé, va-t'en, dit-elle.
Elle commençait à refermer lui quand Chevalerie, bloquant son mouvement, intervint.
Qui est-ce ?
Puis il s'adressa à moi en aparté.
Ne faites pas attention à elle, messire. Elle a les atours d'une dame, mais les manières d'une harangère.
Les enfants semblaient pulluler dans la pièce derrière eux. Je ne me rendais pas compte jusque-là du nombre que représentait cette petite. Leste et Agile, assis par terre près de la cheminée, faisaient une partie de cailloux, tandis que Calme les observait. Leste leva les yeux, me vit, et ses lèvres s'arrondirent en un « oh » de surprise. Son jumeau lui enfonça un doigt dans les côtes.
« Qu'est-ce qu'il y a? C'est à toi de jouer !»
Âtre et Juste se bagarraient sur le lit et ne me prêtèrent aucune attention. Je pris tout à coup la mesure de la promesse que Burick avait exigée de moi. Elle équivalait au moins à 7 fois ce que mon père lui avait demandé en lui confiant ma garde. Les 2 jeunes excités avaient mis la literie sans dessus-dessous, et le candélabre posé sur la table de nuit risquait la chute à tout instant. Et puis, avant qu'Orty eût le temps de me claquer la porte au nez ou Chevalerie de m'inviter à entrer, Molly sortit de la pièce voisine. Elle pila net en me voyant. Elle m'aurait sans doute jeté dehors si elle en avait eu le temps, mais Âtre se dressa sur le lit et se jeta sur son frère, qui l'évita en roulant sur le côté. En 2 pas, je le rattrapai avant qu'il ne heurtât le sol. Malgré ses 6 ans, il réussit à m'échapper aussitôt en se tortillant comme un ver et repartit à l'assaut de Juste. L'image d'une portée de chiots me vint à l'esprit et je souris en déclarant « J'ai promis à Burick de veiller sur ses fils. Or, pour cela, je dois les connaître. Je viens donc me présenter. » Lest se leva lentement face à moi, avec dans les yeux une question que je déchiffrais sans mal. Je rassemblais mon courage. Je connaissais la réponse. Oui. Je m'appelle Fitz Chevalerie Loinvoyant. J'ai grandi dans les écuries de Castelserre. Votre père m'a appris tout ce que, selon lui, un homme devait savoir. Je souhaite transmettre ce qu'il m'a enseigné à ses fils. Chevalerie avait remarqué la contrariété d'Orty, et mon nom le troubla encore davantage. Il se déplaça pour s'interposer entre ses cadets les plus petits et moi. Il avait effectué son mouvement de manière si instinctive que je ne pus m'empêcher de sourire, même quand il dit « Je me crois capable de te transmettre moi-même l'enseignement de mon père à mes frères, messire. » « Je n'en doute pas, mais tu auras aussi d'autres responsabilités. Qui se charge du bétail et des écuries chez vous en ce moment ?»« Mupreux, un du village qui nous aide de temps en temps pour les gros travaux. Il peut se débrouiller, en tout cas l'espace de quelques jours. Mais je devrais rentrer à la ferme tout de suite après le mariage du prince. »«
Ça ne le regarde pas !» intervint Orty, suffoqué.
Je compris que je devais l'affronter et m'imposer si je ne voulais pas qu'elle me chasse. J'ai donné ma parole, Orty. Lest peut en témoigner. Je ne pense pas que ton père m'aurait demandé d'élever ses derniers fils s'il jugeait que cela ne me regardait pas. Dès lors, la décision ne te revient pas.
Mais à moi si, déclara Molly d'un ton catégorique, et, pour de multiples raisons, je la juge mal avisée.
Je rassemblai tout mon courage, puis me tournai vers Chevalerie. J'aime votre mère. Je l'aime depuis longtemps. Des années avant qu'elle ne choisisse votre père. Mais je vous promets que je ne tenterai pas de prendre la place de Burick auprès d'aucun de vous. Je m'efforcerai seulement de faire ce qu'il attendait de moi. Veillez sur vous. Je regardais Molly. Elle était si pâle qu'on l'eût cru au bord de l'évanouissement.
Pas de secret, lui dis-je. Plus de secret entre nous.
Elle s'assit lourdement sur le lit. Aussitôt, ses 2 petits derniers la rejoignirent et Âtre grimpa sur ses genoux. Par pur réflexe, elle le serra contre elle.
« Il vaudrait mieux que tu sortes, je crois, » fit-elle d'une voix défaillante.
Calme s'approcha d'elle et d'un geste protecteur lui passa un bras autour des épaules. Lest se leva brusquement.
« Plus de secrets ? Vous allez leur révéler que vous avez le vif, alors ?»
Il me jetait un défi. Je lui souris. J'ai l'impression que tu viens de le faire à ma place. Je me rappelais ma résolution et me tournais vers Orty. J'enseignerai aussi l'art à votre sœur. Devant le masque d'incompréhension de Chevalerie, je repris. La magie royale. L'ancienne magie, elle la possède. Elle parle avec les dragons. Demande-lui quelques explications un de ces jours. C'est la raison pour laquelle on l'a convoqué à Castelserre, afin de servir le prince. Je crois que votre père avait aussi quelques dispositions pour l'art, car il œuvrait autrefois en tant que servant du roi Chevalerie, celui-là même à qui votre frère aîné doit son prénom. Lest me regardait fixement, les résistant.
Tram nous a dit qu'il ne fallait jamais évoquer votre vraie identité, qu'il restait des gens qui souhaitaient votre mort et que nous tenions votre vie entre nos mains.
Je m'inclinai devant lui. En effet, je remets ma vie entre vos mains. Je me tournai vers Orty et ajoutai « Si tu désirais réellement te débarrasser de moi, ça te serait très facile. »
« Par pitié, Fitz,
Molly paraissait au bout de son rouleau.
« Va-t'en. Je dois m'entretenir en privé avec mes enfants. Tu n'aurais jamais dû dévoiler un secret aussi lourd devant les plus petits. Je leur fais déjà à peine confiance pour se laver seul derrière les oreilles le matin, alors gardez pour eux pareille confidence. »
Je me sentis alors un peu penaud et je m'inclinai en répondant. « Comme tu veux, Molly. » Sur quoi je sortis. Je n'avais pas fait 5 pas dans le couloir que mes genoux se mirent à trembler si violemment que je dus m'appuyer un moment contre le mur. Une servante me demanda si j'étais malade, mais je l'assurai que j'allais me remettre et que tout irait bien. Toutefois, comme je recouvrais quelque énergie et reprenais mon chemin, je me demandais si tout irait aussi bien que je l'affirmais. L'art d'ortie me frappa avec la puissance d'un coup de marteau.
« Les dragons arrivent. Tintaglia ordonne qu'on apprête de la viande sur pied à l'endroit habituel. »
Nous dûmes à la bonne fortune la survenue de créatures légendaires au mariage du prince. Mais à l'inspiration d'Ortie, la désignation du tribut qu'avait exigé impérieusement Tintaglia par l'expression « banquet des dragons ». Des bœufs entravés, parés de banderoles bleues, furent placés dans un enclos non loin des pierres témoins où ils attendirent leur sort sans bouger. Tintaglia et Glacefeu ne furent pas présents lors de la cérémonie proprement dite, ce dont nul ne se plaignit. La foule de ceux qui vinrent assister à l'échange des vœux entre le prince et la Narcheska, au milieu des pierres témoins, s'étendait sur toute la colline. Les deux jeunes gens, magnifiques en bleu et blanc, se tinrent au centre du carré des piliers, sous un ciel d'une limpidité miraculeuse à cette saison, et déclamèrent leur serment d'une voix forte et claire. Je faisais partie des gardes alignés près des enclos, afin de dégager l'espace pour les dragons. Les deux créatures apparurent telles de petits joyaux à l'horizon, à l'instant où le prince achevait de prononcer ses promesses à son épouse et à ses ducs. Elles se rapprochèrent, et la foule poussa des « oh » et des « ah », comme s'il s'agissait d'une troupe d'acrobates venue exprès pour son plaisir. Elles grandirent et grandirent encore. Les gens commencèrent à se rendre compte de leur dimension et nous n'eûmes bientôt plus de problème pour maintenir déserte la zone prévue pour leur atterrissage. Soudain, un grand silence tomba sur l'assemblée. À l'évidence, Tintaglia s'efforçait d'échapper à la poursuite ardente de Glacefeu. Au-dessus des pierres témoins, ils se mirent à tournoyer et à cabrioler dans un simulacre de combat qui les amenait parfois si près du sol que le vent de leurs ailes ébouriffait les cheveux et faisait battre les écharpes des spectateurs. Ils s'élevèrent ensemble, masses scintillantes noires et bleues, en une ascension brusque, presque verticale, puis Glacefeu plongea et s'empara de sa femelle. Ils s'accouplèrent avec avidité et impudeur, au grand ravissement des témoins assemblés, qui y virent un excellent augure pour leur prince et leur nouvelle princesse. Il eût fallu être dépourvu de la plus petite trace d'art pour rester insensible à la passion de ces gigantesques animaux. Elle fit courir dans la foule une onde de sentiments et de désirs amoureux qui marqua pour beaucoup cette soirée de festivité du souvenir d'une longue et mémorable nuit. Les dragons, eux, n'en avaient cure. Ils s'unirent à plusieurs reprises avec force barrissement et feinte menace. Puis, ils se jetèrent sur les bouvillons avec un appétit effrayant à voir. Les clôtures ne purent contenir les bêtes affolées. Un garde tomba sous leurs sabots et des dizaines de spectateurs ne durent leur survie qu'à leur vélocité à se mettre en sécurité avant que Tintaglia et Glacefeu n'eussent achevé leur massacre et commencé à se restaurer. Devant ce carnage, même ceux qui étaient restés pour regarder les dragons abattre le bétail décidèrent de regagner le château, ou au moins d'observer la scène à distance plus prudente. Cependant, bien que les deux invités inattendus ne prêtassent guère d'attention à la circonstance, leur présence constitua un triomphe pour notre prince. Avant de s'en retourner dans leurs fiefs respectifs, les ducs se réunirent et convinrent de reconnaître devoir comme roi servant, ponctuant ainsi sa quête d'une fin digne d'une balade épique. Il s'en écrivit d'ailleurs de nombreux sur ce dénouement, que l'on chanta souvent les mois et les années suivantes. Les réjouissances se poursuivirent 20 jours pleins à Castelserre, jusqu'à ce que l'arrivée d'un temps hivernal convainquit les nobles de repartir dans leurs demeures et propriétés avant que les conditions de voyage ne devinssent par trop inconfortables. Peu à peu, la vie au château reprit ses habitudes. Néanmoins, tout l'hiver durant, il y régna une atmosphère enjouée qu'on n'y connaissait plus depuis bien des années. Par leur jeunesse,
Le roi servant et son épouse attirèrent non seulement la noblesse des six duchés, mais aussi les Caempras outréliens de leur rage. Des alliances se conclurent qui n'avaient rien de commercial, et l'on dressa des plans de mariage entre les deux pays. Parmi ceux qui annoncèrent ainsi leurs intentions se trouvaient le seigneur civil et Dame Sidel. Toutefois, ce fut aussi une période de séparation. Je fis mes adieux à Heur et à son maître, qui allaient suivre leur seigneur jusqu'à son château pour y séjourner l'hiver. Mon garçon semblait nager dans le bonheur, et si son départ me pesait, je me réjouissais en revanche qu'il eût choisi une voie d'où il tirait si grande satisfaction. Tram emmena l'Est. Il était temps, selon lui, qu'il mit le nez dehors et fit la connaissance d'autres semblables à lui, afin de mieux saisir les nuances du vif et la nécessité de l'employer avec maîtrise. Ma déclaration d'amour à sa mère avait dressé un nouveau mur entre l'enfant et moi. J'ignorais si je parviendrais à l'abattre rapidement, mais quoi qu'il en fût, je me sentais mieux d'avoir pu m'exprimer avec sincérité devant l'Est. Tram tenta de me convaincre de les accompagner sous prétexte que je profiterais moi aussi des rencontres qu'il ferait, mais je refusais encore une fois, en lui promettant de trouver du temps un jour, j'aurais craché. Il sourit et me rappela qu'on ne trouvait jamais le temps. On ne pouvait qu'employer avec discernement celui qui nous était imparti. Je l'assurai que je m'y forcerais. Puis les saluai de la main tandis qu'il s'éloignait des portes de Castelserre. Les dragons nous quittèrent au premier frimas, et nous n'en fûmes pas fâchés. Ils se montraient capables de dévorer un couple de bœufs par jour. Horty nous avait averti que, si nous ne subvenions pas à leurs besoins de notre plein gré, ils se serviraient sans doute eux-mêmes. Notre cheptel avait donc vu ses membres les plus malportants et les plus chétifs amplement décimés avant que le froid de l'hiver ne chasse les deux créatures vers le sud. Une nuit, je surpris avec un certain amusement Horty en train de parler en rêve avec Tintaglia. Elle volait avec la reine dragon, légèrement en retrait de glace-feu, dans le ciel nocturne en direction de contrées plus chaudes. Le vent frais, les étoiles qui brillaient au firmament et les puissantes odeurs de la terre assoupie, tout cela formait un mélange enivrant. Et passé ce désert, vous trouverez certains des troupeaux parmi les plus charnus et les plus gras de notre partie du monde. Enfin, à ce qu'il paraît. Horty s'exprimait d'un ton détaché, l'air de ne pas y toucher. « Un désert, du sable sec, je meurs d'envie d'un bon bain de poussière. Humide, elle s'incruste sous mes écailles, et l'eau ne nettoie pas le sang séché aussi bien que le sable. » « Je crois que cette région vous plaira beaucoup. On prétend que le bétail de Calcède est deux fois plus gros que le nôtre, et si dodu que la chair s'enflamme si on essaie de la faire cuire au-dessus du feu. » Le rêve d'Horty sentait la viande en train de rôtir, dégoulinante de graisse. J'en eus presque l'eau à la bouche. Je n'ai jamais entendu mentionner la taille, ni la corpulence des bêtes des élevages calcédiens comme particulièrement exceptionnelles, intervins-je. Nous parlions entre nous, répliqua Horty avec sévérité. Et ce que je sais de Calcède, je le tiens des histoires que m'en racontait mon père. La visite de deux dragons affamés ferait le plus grand bien à ce pays. Là-dessus, elle me jeta hors de son rêve, et je me réveillai par terre, à côté de mon lit. De voir, Humbre, Horty, Lourd et moi continuions à nous réunir tôt le matin pour étudier l'art et en approfondir notre connaissance. Ma fille se montrait polie, mais ne m'adressait pas la parole plus que nécessaire. Sans chercher à ébrécher ce mur-là non plus, je me contentais d'enseigner ce que je savais au groupe tout entier. Bientôt, ma maigre avance sur les autres se réduisit jusqu'au moment où nous décidâmes d'apprendre ensemble, en tant que clan. Loin d'accélérer notre apprentissage, ce que nous découvrîmes dans les manuscrits nous ralentit, car il nous apparut très vite que nous manions notre magie comme des enfants une épée, sans guère nous rendre compte ni de son danger, ni de ses capacités. Humbre rêvait d'essayer les pierres-portes, comme nous prenions peu à peu l'habitude de les appeler. Les cités des anciens, les trésors et les secrets qu'elles recélaient la friandaient irrésistiblement. Et seule l'extrême aversion que Lourd et moi leur manifestions le convainquait d'attendre de mieux maîtriser sa magie avant de tenter aucune expérience dans ce domaine. Le résultat le plus positif de ces rencontres fut peut-être qu'il accepta d'organiser au printemps un appel selon l'ancienne tradition, afin que nous choisissions, parmi ceux qui y répondraient, les candidats à former suivant les procédures prudentes décrites dans les parchemins d'art. Malgré mes nombreuses occupations, j'avais l'impression que je ne verrais jamais la fin de l'hiver. Le lendemain du mariage, Molly avait quitté Castelserre avec 5 de ses fils, sans m'avoir adressé le moindre adieu. J'en restais accablé 3 jours durant, puis, à défaut d'autres conseillers dans les affaires du cœur, je fis le récit navré de ma stupidité à Patience et Brodette. Elles m'écoutèrent attentivement, louèrent mon courage et ma franchise, stigmatisèrent ma bêtise, et enfin me révélèrent que Molly leur avait déjà rapporté toute l'histoire. Après m'avoir réprimandé d'avoir foncé tête baissée sans tenir compte de leur mise en garde, Patience me conseilla de l'accompagner à Gué de Négoce pour l'hiver, afin de ne pas rester les bras croisés et de laisser du temps à Molly. Je ne réussis à la détourner de ce projet que d'extrême justesse. Néanmoins, il me fut pénible de les voir partir, et je promis de leur rendre visite avant la fin de l'année.
« Si nous sommes encore vivantes !»
répondit Patience d'un ton guilleret. Elles s'engagèrent à me faire parvenir une lettre en même temps que le rapport mensuel qu'elles envoyaient à la reine sur leur fief, et je les assurais de leur rendre l'appareil. J'assistais à leur départ, monté sur des chevaux au milieu de l'escorte que Kétriken avait insisté pour leur fournir, car malgré leur âge, elles dédaignaient toujours le confort des litières. Au milieu de la route, je les suivis du regard jusqu'à ce qu'un tournant les déroba à ma vue.